bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre avec Leïla Kadourou-Déby, Daniel Morin,
bonjour Frédéric,
Albert Algou,
bonjour
Alexis Le Rossignol, Frédéric Sigrist,
bonjour Daniel,
Tanguy Passureau,
yes,
et notre invité, Sophia.
Sophia,
je suis ravi de vous accueillir pour parler de À nos amours, qui est jusqu'au 30 mars, c'est ça, au Palais des Glaces?
Absolument.
Un spectacle qu'on a eu la chance de voir, d'applaudir, de rire, et c'était intéressant de voir d'ailleurs aussi bien, et d'écouter évidemment ce qui se passait sur scène, que de voir le comportement et les réactions dans la salle. Je me demande si il n'y aurait pas un doc à faire avec des caméras qui ne filment que le public pour voir qui réagit comment. Est-ce que vous les voyez de là où
j'adorerais,
vous êtes?
Non, je vois personne, je suis myope comme une taupe, même si on les éclairait, je les reconnaîtrais pas. Mais je sens et j'entends surtout. Et il y a des moments où les hommes
rient plus, il y a des moments où les
femmes rient plus. Enfin, c'est assez intéressant.
Ce qui est marrant, c'est aussi de voir la façon dont Nagui fait des compliments. Ce qui serait intéressant pour le spectacle, c'est de prendre le public et pas l'artiste.
Il n'a pas dit ça.
J'ai beaucoup ri et beaucoup
réfléchi.
Ça donne à réfléchir. Bah pour une fois, ça fait du bien.
Je connais pas, moi, c'est pour
tu
ça.
Tu devrais y aller.
On est tous pour
que Daniel Morin assiste à mon spectacle.
On a refusé l'entrée.
Ça peut même être financé par un organisme
humanitaire.
Oui, une formation comme ça.
On en reparle dans deux secondes, mais d'abord, des questions sur Sophia Aram. Quand les parents dormaient, que faisaient Sophia Aram et ses frères et sœurs?
Regarder la télé, manger dans le frigo.
Alors c'est un rapport, oui, il y a une ambiance frigo.
La cuisine, ils piquaient des trucs dans le frigo.
Non, ça, ils allaient dans la cuisine, mais ils faisaient quoi?
La comédie, pièce de théâtre,
gâteau?
Non.
Qu'est-ce qu'on peut faire dans une cuisine?
Alors,
ils se mettaient dans le frigo?
Ça va pas, non?
Bah, c'est drôle, pour voir si la lumière est allumée ou pas quand on est dedans.
Ah, la fameuse, c'est ça. Est-ce que la lumière reste allumée quand la porte est fermée?
On l'a tous tenté, non?
Oui.
Vous avez une
enfance difficile, il y a pas voulu en parler.
Surtout un frigo.
On comprend beaucoup plus de choses maintenant.
Pas d'idée.
Vous feriez quoi dans la cuisine? Non, avec frères et sœurs. Alors, on s'approche.
Un conseil de famille.
Non.
Un concert.
Ils jouent au papa et à la maman.
Pour se débarrasser des parents.
Pas loin.
On joue à la cuisine. On joue au chef cuisinier.
On joue au docteur.
On joue aux parents.
Sur les tables de la cuisine.
On joue au cuisinier. Ils faisaient top chef.
On a de la musique.
On danse.
On
joue
des tables.
Voilà.
On faisait des booms dans la cuisine.
C'est la cuisine qui a induit en erreur.
Mais alors, c'est la cuisine, du coup, tu te dis, ça pourrait être n'importe où.
Mais elle était insonorisée quand même.
Non, parce qu'on avait un petit appart. On avait 6 enfants. Il fallait qu'il y ait une pièce assez grande pour accueillir tout le monde.
C'est une boom clandestine. En plus, t'es près du bar. Dans la cuisine.
Ça, je connais.
À côté du frigo. Mais là, vous avez quel âge, pardon, quand vous faites ça?
Moi, je devais avoir 6 ans.
Ah oui, à 6 ans?
Ouais.
Sans dormir?
Oh là là, mais non, c'était pour les nuls.
Et c'était quel genre de musique?
Alors, ça dépendait. Il y avait des thèmes. Parfois, c'était des soirées marocaines où là, on mettait les cassettes audio
d'époque,
qu'on retournait quand on bobinait avec un stylo bic. Et parfois c'était des
variétés. Vous étiez fan de qui?
Moi, j'étais très...
Parce que vous aurez spectacle avec Patrick Juvet, donc je voulais savoir si vous étiez 70
J'étais
ou
tout
pas.
Ce qui était ringard, bien sûr, moi, tout ce qui a été ringard, tout ce qui l'est encore aujourd'hui, tout ce qui était ringard à l'époque, j'adorais. Juvet, je pouvais danser sur Juvet.
Juvet, maintenant, c'est top fashion.
C'est attention. Fashion faut toujours être en avance.
Ouais. Oui, tout ça.
Que lui a pris son frère? L'un de ses frères.
À siffler, à roter, à... Qu'est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un?
Ça, c'est moi qui lui ai appris à roter.
Ouais, d'accord, ok. À se défendre face aux garçons.
Non,
jouer au foot.
Truc de mec.
Pipi debout.
Voilà. Non.
À se raser, j'allais dire.
Sympa.
Ça vient de toi, là. Pour une fois, c'est pas nous. Hein.
Moi, je veux dire, quand ce vendredi matin, c'est impeccable.
Moi, j'adorais mimer mon père qui se rasait. Je mettais la crème Nivea et je faisais semblant de me raser.
Pas se battre. Non, c'est un rapport avec un super-héros.
À voler,
Superman.
À s'accrocher au mur, à grimper.
À grimper au mur comme Spider-Man.
Oui, on avait un couloir très étroit dans notre appartement et on s'accrochait au mur
et
on grimpait comme ça.
Ah, tu pouvais faire main droite.
Et un jour, mon père est passé dans le couloir et il entendant et là, il lève la tête et il y avait deux enfants accrochés au plafond.
Mais vraiment, vous arriviez?
Oui, on arrivait super bien.
Oh la classe.
Des fois, j'ai envie d'essayer, mais j'ai peur.
Le papa, justement, de Sophia Aram a été, il ne faut pas que j'en dise trop,
ça suffit.
Cuisinier dans une haute, très haute
Élysée.
À l'Élysée.
Institution.
Matignon.
Non.
Privée ou publique.
Non.
Un grand restaurant.
Alors pardon, c'est une ironie quand je dis haute, très haute.
À la cantine de l'école.
Radio France.
À la cantine de Trappe.
À Daniel Moraz.
Radio France.
À la cantine de Radio France.
Exactement.
Il est, c'est il lui était... le fautif, c'est lui
c'était
le criminel.
C'était pas la cantine, c'était le restaurant, Nagui. C'était le restaurant à l'époque.
Il y a eu plusieurs restaurants.
Il y avait un chef, c'était Raymond Oliver à l'époque. Mon père
sans travaillait. Vous êtes la fille de Raymond Oliver.
Non, non, je suis la fille de Mohamed Aram, qui lui travaillait rue Cognac-Gé. Et quand la maison de la radio a ouvert, il est arrivé ici avec Raymond Oliver.
La classe.
La classe ou pas?
Ah oui, mais il était étoilé carrément, Raymond Oliver.
Ouais, mais pas mon père.
Non, mais je veux dire, non, c'était un restaurant de qualité,
oui,
c'était pas un restaurant d'entreprise, entre guillemets.
Oui, bien sûr, ouais, non, c'était de la grande cuisine.
Mm. Et vous avez, entre guillemets, grandi en écoutant aussi Inter parce que papa travaillait là, vous écoutiez ça à la maison ou pas du tout?
Non, à la maison, on va être très honnête, on écoutait RTL.
Ouais.
Très c'était très Radio Maghreb.
À l'époque, c'était bien, oui. Que Sophia a-t-elle mis chez elle pour absorber, oui, j'y étais, pour absorber les ondes?
Un talisman, quelque chose.
Les, truc d'œuf.
Marre de café, citron.
Quoi, c'est les œufs qui absorbent
les... Non, les boîtes d'œufs.
Non, ça c'est le son. Non, là c'est les ondes, les vibrations, j'imagine. C'est plus magnétique qu'autre chose. Ça.
Une éponge.
La Wi-Fi,
ouais,
tout ça.
Ah, c'est ça.
Une sorte de grillage.
L'aluminium.
Non, c'est quelque chose de naturel. Une cage Faraday, toi,
ouais,
carrément.
Ouais,
c'est
ça.
La litière
c'est
pour chat.
La litière de chat. Non,
oui. Et c'est vivant. C'est une
ficus. Non, c'est une plante.
Donc ficus suffit.
Donc c'est vivant, c'est une plante.
Un cactus.
Oui.
Le cactus,
ça dans
absorbe les ondes. Ah oui, les Mexicains, ils n'ont jamais de problème à ce niveau-là.
Ils n'ont pas de réseau.
Ils n'ont pas le téléphone.
Il y a tellement de cactus au Mexique, il n'y a pas de réseau.
Capte pas. On a coupé le cactus, là.
J'ai lu ça, et parce que au départ j'étais un peu contre, je voulais pas qu'il y ait la wifi à la maison, parce que je me disais non, ça va être horrible pour les ondes. Et quand j'ai découvert que tous mes voisins, en fait, quand j'ai allumé le truc, j'ai vu que tous mes voisins avaient des réseaux, au début, hein, je parle de ça, et moi je suis allée chercher, et j'ai trouvé que les cactus absorbaient les ondes. J'ai envie d'y croire, je sais, c'est pas rationnel du tout, mais laissez-moi
et vous
y croire.
Vous êtes feng shui, vous êtes bougie parfumée,
non.
Sophia a une maîtrise en arabe et dans une autre langue.
En finlandais.
Anglais, allemand, italien, portugais,
russe,
le danois,
mandarin,
le turc.
Chinois. Vous allez avoir du mal à trouver. Hein.
Le
magyar.
Non.
Le luxembourgeois.
C'est une langue inventée avec les enfants?
Non, c'est une véritable langue.
L'espéranto.
Non.
La langue de bœuf.
Non. Tu sors. Non, là, son magyar. Non,
moi, je pense que les gens rigolent.
Je pense qu'il faut des expulsions temporaires comme au hand. Tu vois,
la preuve.
Mais ils rigolent parce qu'ils ont pitié.
Ça marche.
À son âge, c'est le pauvre.
S'il faut,
c'est la dernière vanne et après il disparaît. C'est pas possible.
Non. Est-ce que c'est européen?
C'est
le serbe,
européen, oui.
Le serbo-croate.
Non.
Le finnois.
Ça se parle
non.
encore.
Le hongrois.
C'est
ça se parle encore. Oui.
Le polonais. Le breton.
Non.
Ah oui, c'est une langue locale.
Le basque.
L'occitan.
L'occitan. On va aller plutôt dans le sud.
Le portugais.
Non.
L'italien, mais je ne sais pas si ça se parle encore.
Non, le catalan.
Le catalan. Corse, non.
Non. Ah, ils ne trouveront pas.
Le galicien.
Non.
Attends, le sud, attends, le sud.
Le sicilien.
Sud, on est en Méditerranée, oui.
Le sicilien, le maltais.
Maltais.
Oui,
maltais.
Alors, pour rectifier, je n'ai pas de maîtrise en maltais. J'ai une licence de linguistique et dans.
Et un bichon.
En licence.
Maîtrise d'arabe.
On ne va pas y arriver.
En licence, j'ai étudié le maltais, mais je n'ai pas de maîtrise de maltais. Ah non.
D'accord, mais alors quelle est cette langue? Ça ressemble à quoi le maltais?
Le maltais, ça ressemble à l'italien, l'arabe, l'anglais. Enfin, c'est un mélange de plusieurs
langues
et c'est passionnant. Ouais.
Parce qu'il y a plein de touristes.
Je suis incapable de le parler, je l'ai étudié, je l'ai lu et je ne le parle pas du tout.
D'accord.
Mais en Algérie, il y avait des maltais. Hein.
Pourquoi l'avoir étudié?
Parce que c'était les dialectes du Grand Maghreb. Ce qu'on appelle le Grand Maghreb allait du Maroc, la Mauritanie, le judéo-arabe.
D'accord. Dernière question, dans quel genre de magasin a-t-elle été vendeuse?
Chaussures.
Quincaillerie.
Non.
Kiabi.
Bricolage.
Non, mais tu as quelques lettres en tout cas.
T'as dit quoi?
Ikea.
Oui, Ikea.
Ah, tu vois.
Oh là, Fred.
C'est tellement fort en anagramme.
Ouais, c'est ça.
Je savais pas quoi foutre.
Qui habite à Ikea? Vendeuse
des génies,
chez Ikea au nord de Paris, dans une zone industrielle.
Dans l'ouest, à côté de Trappes, j'étais à Plaisir.
Ah, d'accord.
Et je vendais des canapés. Canapé, bibliothèque, j'étais numéro 1 sur les ventes des Billy. La fameuse Billy. Et un jour, j'ai eu une gamme, parce que tout le monde rigole avec les noms, mais un jour, on a reçu une gamme de meubles qu'ils ont dû retirer parce qu'elle s'appelait Sconard. Et quand les gens arrivaient en disant bonjour, je voudrais Sconard en bleu, c'était un peu compliqué.
Génial.
Ouais,
Sconard, c'est bon.
C'est génial. Génial.
C'est mais vraiment c'est vrai des cons en Suède.
Et, pardon, les noms veulent dire quelque chose en suédois ou pas?
Alors, j'ai découvert en travaillant là-bas qu'il y avait une femme assez âgée à l'époque.
Skonas. Qui...
Il va toutes les faire.
Il est en forme olympique.
Je sais pas ce qu'il y a.
Je sais pas.
T'as pris une pilule bleue? Qui s'est passé?
Et donc, cette femme assez âgée vivait en Suède et son métier, c'était de trouver les noms des meubles et de vérifier que partout dans le monde,
aucun autre nom
pouvait passer. D'accord. Et donc, ce connard, elle était passée à côté.
On apprend quoi quand on est vendeuse dans une surface
alors,
comme Ikea?
Par exemple, on apprend le rapport avec les hommes qui voient une petite vendeuse avec un polo rouge et un badge « Je peux vous aider » et qui font des vannes toute la journée. Ouais, et quand vous vendez des canapés, il y a à peu près sur une journée, je pense, une cinquantaine de gros lourds qui sont persuadés de la faire en premier, d'être les seuls à avoir eu l'idée.
On peut l'essayer ensemble ?
Absolument. Vous étiez là, Nagui ?
Mais c'est plus rentrer dans un magasin Ikea.
C'est les vieilles ficelles, tu sais.
C'est terrible.
Tellement téléphoné.
Et puis on s'imagine que la vendeuse avec son petit uniforme, elle est corvéable à merci, on peut la draguer, c'est bon.
Elle est même flattée.
Ouais, ça lui fait plaisir, la pauvre fille.
Ça donne un très bel enchaînement avec le spectacle, parce que c'est vrai que Sophia, ce spectacle, j'ai pas envie d'employer le terme féministe parce qu'on met souvent dans cette catégorie un militantisme qui pourrait être agressif. Alors moi, j'ai trouvé ce spectacle intelligent.
Non, faut se réapproprier le terme féministe. Faut juste pas le laisser à ces personnes-là. Le féminisme, c'est juste un courant de pensée, une idéologie aussi, qui est partagée autant par les hommes que par les femmes. Et après, les acharnés, il y en a dans chaque domaine, quel que soit justement le courant de pensée. Il faut pas leur abandonner ce terme-là. C'est un spectacle féministe.
Ok, Nagui.
Je comprends complètement la réticence de Nagui parce que souvent parce que
j'ai
mal
pas trouvé
perçu.
Agressif, militant, j'ai trouvé intelligent parce que vous faites des comparaisons entre hommes et femmes avec il y a pas une phrase qui ne fasse pas éclater de rire, mais chaque fois qu'elle fait éclater de rire, elle donne à réfléchir. Ça c'est un
vrai compliment. Merci
non mais c'est vrai, c'est un travail très intelligent parce que il y a une vanne, mais il y a pour la forme, mais pour le fond, il y a toujours quelque chose. On se dit, mais c'est vrai qu'elle a raison, si les hommes avaient leurs règles, on en parlerait beaucoup plus, et ça ne serait pas sale, et surtout...
C'est sûr qu'on en parlerait,
ça serait remboursé par la sécu.
Et c'est sûr que les mecs hurleraient de douleur.
Et il y aurait un médicament pour apaiser ces douleurs.
Ah mais c'est sûr. Et puis il y aurait même un jour férié tous les mois.
C'est un peu plus.
4 minimum, oui.
Le temps de s'en remettre, moi je dis 6.
En tout cas, de vivre ensemble, on les aurait tous ensemble.
En même temps.
Ouais.
Il paraît qu'il y a des influences comme ça.
Pourrait se tenir la main.
Quelle a été la ligne directrice du spectacle quand vous êtes mise à l'écrire ou co-écrire avec votre
mari? On l'a écrit à deux, oui, avec mon compagnon Benoît. L'idée de départ, c'était l'affaire Weinstein, parce qu'on avait trouvé que toutes ces réactions complètement choquées des gens qui découvraient que des femmes étaient victimes d'agressions sexuelles dans le milieu du cinéma, c'était énorme, c'était colossal, tout le monde était... Mais c'était un bouleversement, sauf que pour moi, il n'y avait rien de nouveau. Je ne comprenais pas que les gens soient surpris, que les gens réagissent de manière étonnée que ça arrive aussi dans le milieu du cinéma. Parce que mon sentiment, c'est que tout le monde sait que ça existe. Tout le monde sait que les femmes sont potentiellement des victimes. Ce que je dis à la fin du spectacle, par exemple, c'est que...
Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est la conclusion qui est en plus dite sur un ton sérieux et qui, d'un coup, donne encore plus de poids, d'ailleurs, à ce que vous dites, après qu'il y ait eu les éclats de rire pendant une heure et demie.
Parce que je suis agacée, parce que j'en ai plus qu'assez qu'on joue l'étonnement, parce que aujourd'hui encore, en France, partout dans le monde, quand une femme sort la nuit, on lui dit « Oh là, attention !» On le fait tous. On dira toujours à une femme, tu es sûre, tu vas rentrer toute seule. Est-ce qu'on a appris que c'était normal?
Tu t'habilles comme ça, est-ce que tu sais où tu vas ou par où tu passes?
J'ai une copine qui dit à sa fille, attache-toi les cheveux quand tu sors. C'est insupportable. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et on vit avec et on ferme nos gueules. Et je ne veux plus fermer ma gueule et je ne veux pas trouver ça normal. Au moins ne pas trouver ça normal.
Et c'est la meilleure réponse aux hommes qui, après l'affaire Weinstein, commencent à dire « Oh là là, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. » Eh bien, tu as envie de leur dire bah, « Ça fait un petit moment que nous, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Donc, si tu veux, tu fais un petit peu attention où tu mets tes mains et puis ça ira mieux. »
Et vraiment, et tout ça permettra justement de pouvoir vivre de manière totalement apaisée. Ouais. Pour moi, c'est le début de l'apaisement et de la vie normale.
Alors justement, tout le travail que vous avez réalisé est de faire une balade historique dans l'éducation, de dire même dans le spectacle, on y est aussi peut-être pour quelque chose, nous les femmes, si on en est arrivé là.
Bien sûr, parce que pour moi, il y a aussi une forme de soumission volontaire de certaines femmes à tout ça. C'est-à-dire qu'on accepte, on se dit, ouais, bon, c'est quand
même... est-ce que c'est une soumission volontaire ou est-ce que c'est les échos de l'éducation que l'on reçoit ?
C'est les deux. Regardez les réactions à l'affaire Weinstein, les premières tribunes, là, le droit à être importuné. Non, mais ça va pas la tête. Ça va pas la tête. C'est quoi ces quiches, quoi ? Moi, qui n'a pas pris les transports en commun ne peut pas savoir que c'est insupportable d'avoir des mains baladeuses, d'avoir des frotteurs, d'avoir... C'est insupportable. C'est une gamine de 14 ans qui en a chopé récemment. Mais bravo à cette gamine.
Elle l'a mis par terre. Parce qu'elle faisait du Krav Maga ou un truc comme ça.
Mais vous rendez compte, il va falloir qu'on apprenne le Krav Maga aux gamines.
Mais
faut apprendre aux mecs à tenir leur sgeg et puis à se calmer. Bah,
faut que les mecs aussi se mettent au Krav Maga s'ils sont chopés par les gamines. On peut plus être frotteur tranquille.
Un trajet va être vachement
distrayant. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'en gros, on demande aux femmes de faire attention, mais on ne demande pas aux hommes de se tenir.
Non, mais Nagui, il y a encore beaucoup de femmes qui considèrent que les hommes ont des besoins. Ouais. Il y a des femmes qui vous disent « les hommes ont des besoins ». J'ai entendu Eugénie Bastier à la radio dire « les hommes ont des besoins ». On n'est pas des animaux.
J'ai besoin d'argent.
Moi aussi j'ai des besoins, Daniel Morin. On ne parle jamais des besoins des femmes et des désirs des femmes.
Il faut que vous parliez.
Et les femmes ont des désirs.
En plus, vous la citez même dans votre spectacle.
Eugénie Bastier, parce qu'elle, elle est en train de réhabiliter cette espèce de machisme primaire et de sexisme. Elle le rend cool en plus parce que c'est la fille cool. Elle est jeune. Et elle explique que nous, on est des ringardes, nous les féministes. Et c'est insupportable d'expliquer que parce que l'homme a des besoins, la femme doit se tenir. Ouais. Ça va quoi, on n'est pas des bêtes. Mais il y avait ce documentaire formidable sur ces jeunes filles qui disent oui parce qu'elles se sentent obligées. Ouais. Il y a aussi cette éducation-là qu'on met dans la tête des filles. C'est-à-dire que, donc s'il m'a offert un verre, je vais être obligée d'y passer. Quoi. Je suis con, j'aurais jamais dû accepter de me retrouver dans cette situation-là et je vais devoir passer à la casserole. Il faut apprendre à une fille à écouter son désir à elle. Est-ce qu'elle a vraiment envie de se retrouver au pieu avec un mec ? Si c'est non, elle lui dit non. Et le garçon doit attendre d'être sûr que la fille en ait envie autant que lui.
Et surtout que c'est possible de dire non. Moi, je l'ai souvent vécu. Il y a énormément de personnes sur cette terre qui arrivent à dire non.
Toi, t'as rencontré beaucoup de filles qui savent dire non.
J'ai rencontré toutes celles qui savaient dire non. C'est une liste exhaustive. Je suis en train de faire un recensement. Et elles étaient nombreuses. Et ça me fait plaisir pour l'avenir.
Mais pour revenir à l'éducation, Nagui, il y a une petite fille sur Internet, je ne sais plus comment je suis tombée là-dessus, qui expliquait la répartition de l'espace dans les cours de récréation. C'est une démonstration, elle a 11 ans cette petite, c'est une démonstration fabuleuse. Le foot c'est pour les garçons, la petite elle voulait jouer au foot, on lui a dit non c'est pas un truc de fille, elle joue pas au foot. Elle voulait jouer au basket, on lui a dit non c'est pas un truc de fille, tu joues pas au basket. Elle se retrouve elle fait un dessin, elle fait un schéma et elle explique l'occupation de l'espace de cette cour de récré.
Génial.
Et c'est réduit
et à les filles sont dans un coin.
Elles sont dans un coin.
Elles sont dans la périphérie.
Oui. Ouais.
Une fille seule doit être au téléphone, parler ou marcher, mais en tout cas
semblant,
être en mouvement.
Bien sûr, des fois on fait même semblant, on a des amis imaginaires.
Dans le spectacle, vous donnez beaucoup de plaisir, mais vous prenez du plaisir à chanter aussi. J'ai découvert ça, je ne savais pas que vous aimiez chanter à ce point-là.
J'adore chanter, Nagui, vous allez m'inviter dans vos émissions où les gens chantent.
Hein. Vous chantez bien en tout cas.
Très bien.
Ouais, vous chantez super bien, avec des chansons que vous avez créées aussi.
Ouais.
Dans un esprit,
c'est dommage.
Ouais. Ouais, ça partait bien.
Allez, le dérapage.
Elle était à ça. Taradata, elle vient de dire les paroles.
La différence entre vous et Zazie, c'est un petit.
Il y a beaucoup de pollution à Paris en ce moment. Je fais du vélo et j'ai la gorge un petit peu irritée.
Pardon.
Donc
vous vouliez rendre quoi ? Un clin d'œil aux comédies musicales ou.
Enfin, j'avais envie de chanter déjà. J'adore chanter.
Oui, mais c'est dans un style.
Ah oui, alors les comédies musicales, parce que je parle des contes de fées.
Il y en a une qui est dans un esprit conte musical, limite Disney. Et l'autre qui est très We Are the World.
L'autre, c'est presque un hymne.
Un chant choral, c'est ça.
C'est presque un hymne. C'est un hymne aux règles que je chante en fin de spectacle. Et la première, c'est les contes de fées. Une fille, ça doit attendre le prince charmant pour être heureuse. Et tout viendra du prince. On doit juste attendre que le mec vous entretienne et vous rende heureuse. C'est ça ton objectif dans la vie quand on raconte ça. Alors, on a le droit de les raconter, hein, moi j'ai pas de problème. Simplement, il faut parler, il faut ajouter des choses.
D'ailleurs. Frédéric.
D'ailleurs, à ce sujet, il y a Le Monde de Ralph 2 qui est sorti au cinéma par Disney, où il y a une relecture de toutes les princesses Disney, c'est-à-dire Ariel, la petite sirène, ouais. Elsa, et elles sont toutes réunies dans le même film, et en fait, elles parlent de ce postulat très misogyne dans lequel elles étaient, où elles doivent attendre un homme fort qui vient les sauver. Et il y a une relecture qui est faite dans le dessin animé qui est jouissive sur le rôle de l'homme, sur le rôle de la femme. C'est
et l'homme n'est pas non plus exempt pour le coup dans cette histoire, parce que lui, il doit être celui qui pourvoit à la vie de celle qui est à ses côtés, qui ne fait rien à part nettoyer.
Non, mais ça remonte à l'homme des cavernes.
Je parle de Blanche-Neige qui se retrouve à aller faire le ménage. C'est sept nains, ils sont sept, les mecs. Il n'y en a pas un qui clean sa maison quand même.
Sept mecs entre eux, c'est horrible.
Sept mecs entre eux. T'as Grincheux, t'as Simplet, et t'en as pas un qui soit juste propre.
T'imagines l'odeur. Sans parler d'atchoum au niveau hygiène, c'est dégueulasse.
T'imagines l'odeur. Mais non, mais sept mecs dans une même pièce.
Attends, il y a aussi des hommes qui changent. Moi, je sais que je suis tombé sur Marie Kondo dernièrement, et je rigolais beaucoup en voyant ça. Et aujourd'hui, je suis obsédé par le pliage.
On va expliquer qui est cette.
C'est une japonaise qui en fait est obsédée par le rangement dans les maisons. Et elle a passé sa vie à élaborer une méthode pour ranger. Et moi, quand je voyais ça, j'ai dit, mais personne, quel est l'intérêt de regarder une émission où les gens rangent? Et en fait, ça te rend fou.
T'es sur Netflix, hein, je crois.
Ouais, et j'ai même acheté le livre et je plie tout.
Ah oui, non, Tom, mais toi, il faut que t'ailles voir.
Mais lui, il a changé.
Les enfants, j'ai tout plié.
Moi, c'est l'étendage.
Les enfants sont pliés.
C'est l'étendage.
Et c'est thérapie de groupe, en fait, cette émission. Ouais. Tout le monde
Sophia Aram est en spectacle, c'est au Palais des Glaces. Et j'imagine en tournée ensuite.
J'adore tourner et je vais aller dans plein de villes. C'est au Allian, à Toulouse, à Montpellier. Parfait. En Suisse,
du mardi au samedi à 20h, ce qui est un horaire extrêmement pratique pour aller grignoter ou boire un coup après.
Côté tour opérateur de Nagui, c'est formidable.
Non,
très fonctionnel, très fonctionnel.
Je dis ça, c'est parce que c'est exactement ce que l'on a fait. Et comme justement, la vanne était aussi sur est-ce que la fille paye, est-ce que le garçon paye, c'était, on s'est regardé avec Sophia.
On se pose
toujours la question d'ailleurs. Et on est parti sans payer, c'était beaucoup plus simple. Des glaces, Sophia Aram, ça va être un succès, Albert. Enfin, je veux dire.
Jean-Jacques.
Le personnage de
Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques aujourd'hui.
Très cher Nagui, bien sûr que ça va marcher du feu de Dieu. Il y en a marre du machisme, sexisme, phallocratisme, archaïsme, obscurantisme, fanatisme, bigotisme.
Enfin, des mots en isme.
Priapisme.
Pas celui-là.
Effectivement, des tas de trucs en isme qui ont le don de m'irriter, rebuter, révolter, pouvanter. Et comme vous venez de le souligner, Nagito Mio, avec cet esprit de synthèse et cet admirable sens du raccourci qui constitue votre marque de fabrique radiophonique, pardonnez-moi si je me permets, à ma façon, de traduire votre pensée. Mais comme vous venez de le souligner, l'humour permet d'aller plus loin et de faire rire avec des sujets qui restent toujours tabous, y compris chez les humoristes. En effet, chère Sophia Aram, vous n'hésitez pas à évoquer des thèmes intimistes, y compris, vous venez de lire les règles, mais aussi le clitoris, le désir, le plaisir. Cependant, il est un thème que vous auriez pu aborder, chère Sophia, et qui malheureusement part trop négligé des humoristes et de vous-même, c'est la coiffure. Daniel et Frédéric...
C'est vrai que t'es bien placé pour faire des vannes sur la coiffure.
Je suis le premier bien. Quant à Daniel et Frédéric, vous pouvez quitter la table, vous jeter une suze à la cantoche.
Chauffe qui
peut. Ce sujet ne vous concerne pas. Alors, en quoi, me direz-vous, parler de coiffure sur scène pourrait faire avancer la cause des femmes, sauf peut-être celle des femmes tendues à la libération
oh.
Donc, me disais-je, en quoi parler de coiffure pourrait faire avancer la cause des femmes et des hommes et de tous les autres? Eh bien, parce que ça permettrait de dédramatiser la situation. Il faut que les hommes, comme les femmes, arrêtent de se cacher. Comme si c'était honteux, arrivé à un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, de se cacher quand on recourt, comme moi, ainsi que mon cousin Jacques, à une coupe dégradée, rajeunissante avec balayage, décollement et pigmentation des racines au charbon de bois et finition régicolore au reflet aile de corbeau. Il ce combat connaît. Qui nous concerne
il
tous
connaît,
et tous.
Mais oui.
Mais je m'y collais. Et comment? On ne pourra y arriver qu'ensemble. Pour ma part, je le mènerai jusqu'au bout des mèches, aux côtés de Jean Patou, mon capillicupiteur paysagiste.
Capillicupiteur paysagiste.
J'en bafouille, j'en perds mon dentier. Chez Zouzou Coiffure, salon mixte et donc féministe. Bonne émission.
Merci.
Capilliculteur.
Nadie sur France Inter.
Sophia Ramé, notre invitée, elle est au Palais des Glaces à partir de 20h. Un spectacle que vous avez co-signé avec votre mari.
Juste on n'est pas
compagnon.
Mariés,
ah, pardon, compagnon.
Je suis contre.
Mais ça fait tellement d'années. la question, c'était quel est l'équilibre entre l'écriture et avez-vous senti une différence dans l'écriture avec la main de la femme, la main de l'homme? Est-ce qu'il y avait vraiment des choses? Est-ce que même dans votre couple, vous avez dit, mais est-ce que tu te rends compte qu'on parle avec emphase de la force de l'homme et de ses érections et de son éjaculation? Non, mais c'est tout un numéro ça où justement vous dites c'est des mots forts, c'est merveilleux. Et puis dès qu'on parle de ce qui se passe pour la femme, c'est justement c'est des règles.
C'est très euphémisé,
ça coule, c'est sale, c'est on n'en parle pas d'ailleurs. Et puis vous détestez qu'on dise ragnagna.
Si vous êtes à table.
Arrêtez avec ça. Enfin voilà, donc on humilie la femme, on grandit l'homme. Il était d'accord avec vous?
Complètement d'accord. Oui, on était. Ça fait quand même 23 ans qu'on vit ensemble. Il est avec une féministe.
Il a dû comprendre, oui.
Je me suis toujours définie comme féministe et ça m'a jamais posé aucun problème. Et à lui non plus. Non, ce qui était intéressant, c'est d'avoir aussi le point de vue d'un homme par rapport à ça. Je pense que c'était. Parce que pour moi, le combat féministe, c'est un combat d'homme et de femme. Oui. C'est pas juste un combat de femme.
On est d'accord.
Pour moi, c'est vraiment. Ouais. On arrivera à l'égalité quand on aura réussi à mettre tout ça dans le crâne de tous. Parce que quand on combat pour le droit au mariage pour tous, on a beau être hétéro, on veut justement, même si je suis contre le mariage, je veux que tout le monde ait le droit de se marier. Et pour moi,
c'est comme l'écologiste. C'est-à-dire que c'est pas ni de droite ni de gauche, c'est le bien commun, c'est la direction commune, en gros.
Pour moi, le féminisme, il y a eu un moment où on a dit les féministes, c'est des mâles baisés, c'est des filles qui sont contre l'épilation. On a essayé un peu de dénigrer ça. Je pense simplement que c'est un combat pour l'égalité, point. Et donc, mon mec était d'accord avec ça, évidemment. Et chez nous, on est dans un rapport très équilibré.
Vous jouez sur les mots aussi, sur les expressions, notamment sur l'appareil génital masculin-féminin.
Dans l'argot, la façon dont l'argot traite les hommes et les femmes, ça m'intéressait beaucoup parce que la femme, on va parler de minou, on va parler de chatte, on va parler de petit animal tout mignon, alors que chez les hommes, c'est la queue, c'est la teube, avec l'emphase, la teube. Oui, la teube, c'est majestueux une teube. Hein.
C'est le zizi aussi.
C'est oui, quand c'est même plus rare pour les petits garçons.
Non, mais
le vocabulaire.
Par exemple, c'est le zizi aussi.
La différence qu'il y a entre l'expression avoir des couilles ou avoir de la chatte.
Avoir de la chatte, c'est avoir de la chance parce qu'une femme n'est pas maître de son destin.
Ouais.
C'est-à-dire que le corps des femmes avait été étudié par des hommes. Donc la connaissance du corps des femmes, elle est encore problématique.
Mais la connaissance du corps des femmes par les femmes aussi. Parce que dans une récente émission, on a piégé à peu près toute la France qui nous suivait, en tout cas, et les invités autour de la table, sur y a-t-il une jouissance clitoridienne et une jouissance vaginale? Y a-t-il deux modes? Et beaucoup de personnes se sont trompées, et c'est Michel Simès avec qui je présentais l'émission, qui a expliqué que tout était clitoridien et rien d'autre.
On parle du même Michel Simès qui avait fait un livre pour enfants où il n'y avait pas de clitoris?
Il avait fait ça?
Oui.
Ah je vais le rappeler, écoute, parce qu'il m'a bien expliqué.
Ah non,
bien
c'était très problématique. Il avait représenté le sexe des femmes.
Dès que t'as cité Michel Simès, moi je me disais, oh là.
Mais non.
Mais vous le saviez, vous, qu'il l'avait fait.
Mais en tout cas, il y a longtemps, Sophia.
Non.
Il n'était pas au courant.
Non, non, il n'y a pas très longtemps, il a sorti un livre pour enfants où on représentait le sexe des enfants. Alors, le pénis, tout était parfaitement dessiné, la verge, le gland, tout ça, tout y était. Et la femme, bizarrement, bah, la petite fille, elle a pas de clitoris, ça alors.
Peut-être que le clitoris a été découvert entre les deux livres.
C'est ça.
Mais même dans les découvertes scientifiques, la découverte de l'ADN, par exemple, la structure de l'ADN, c'est une femme, Rosalind Franklin.
Elle s'est fait voler
sa découverte, qui a été attribuée à des hommes. Elle a été rétablie par la suite, mais dans le domaine scientifique, les avancées ont été très souvent dues à des femmes et c'était souvent effacé au profit des hommes. Ouais, c'est en train de changer, on l'a réhabilité, mais c'est un scandale gigantesque. L'ADN, vous vous rendez compte, c'est une découverte
fondamentale.
Il y en a d'autres.
Absolument. Vous retrouverez tout ça et je vous assure que vous rirez à gorge déployée.
Oui, parce que là, on est hyper
chiant. Non, mais
c'est le fond.
On l'a mal vendu.
C'est
pas ça. C'est que.
Non, là, on prend la partie sérieuse et vous irez faire la promo du fun sur une autre radio. Voilà ce qu'il faut faire.
Sophia Ram, ça s'appelle À nos amours. Voici Alexis le Rossignol. Alors pardon, j'ai oublié de préciser, j'ai dit À nos amours, c'est au Palais des Glaces quand même. C'était important de le redire. Alexis, tout va bien?
Oui, ça va.
Vous allez nous parler du tourisme humanitaire.
Yes, Nagui, indeed. J'ai des variantes. Je vais vous parler du tourisme humanitaire parce que c'est à la mode, comme la coupe mulet dans les années 80. Et ça se comprend parce qu'il y a encore 10 ans, on pouvait soit voyager pour le plaisir, soit s'engager dans l'humanitaire, mais pas faire les deux à la fois. Alors qu'aujourd'hui, on peut. Le tourisme humanitaire, c'est la solution deux en un mix du chanteur Antoine et de sœur Emmanuel pour des vacances réussies dans les pays pauvres. Franchement, c'est super. Faut rendre hommage aux marketeurs qui nous ont pondu ça. Grâce à eux, fini la culpabilité. Fini les pensées tristes du genre « J'adore l'Afrique et les djembés, mais vraiment, il y a trop d'inégalités. » Par exemple, si vous partez au Cambodge avec une agence spécialisée dans le tourisme humanitaire, c'est-à-dire une agence qui fait de l'argent grâce au créneau de l'humanitaire, vous pouvez faire un trek dans les rizières le matin, ensuite enchaîner avec une visite d'orphelinat pour prendre des selfies avec les enfants de 14 à 16 heures, puis rejoindre la plage en fin de journée pour boire des mojitos. C'est pas sympa comme programme, ça. Et le lendemain, vous pouvez recommencer un peu plus loin, parce que ce qui est génial au Cambodge, c'est que des orphelinats, il y en a partout. Il y en a même trois fois plus aujourd'hui qu'à la fin de la guerre civile. Les orphelins, là-bas, c'est comme les gremlins, tu les trempes dans l'eau, ils se multiplient, tu vois. Bon, en réalité, il n'y a pas plus d'orphelins qu'avant. Mais les touristes humanitaires payent un droit d'entrée pour aller dans les orphelinats. Donc, c'est devenu un business. D'ailleurs, 80% des enfants qui vivent dans les orphelinats ont au moins leur père ou leur mère. Il y a un nom en face de parent 1 ou de parent 2 dans leur formulaire scolaire.
Fameux, oui. Mais alors, qui sont les gens qui pratiquent ce tourisme humanitaire?
Il y a un peu de tout, mais ça marche surtout très bien auprès des jeunes adultes. Et c'est logique, parce que quand on vient d'avoir son bac, on se pose des questions. Et parfois, on a très envie d'aider les gens qui n'ont rien. Mais si au bout d'une semaine, on se rend compte que finalement, on préfère devenir happiness manager dans une start-up, on fait quoi? Ce que je veux dire, c'est que on peut être plein de bonne volonté, ça n'empêche pas que nos aspirations peuvent évoluer. Hier, je me baladais avec une pièce d'un euro dans la poche. Par exemple, je me suis dit, si je croise un mendiant, je lui donnerai. Bon, finalement, j'ai pris un coca dans un distributeur. Parce que mes aspirations ont évolué.
Quel chien.
Après, on peut pas reprocher aux gens de vouloir se sentir utile. Le tout, c'est de savoir pourquoi. Car comme le dit le célèbre dicton africain, celui qui se parfume pour qu'on lui dise qu'il est propre, se ment à lui-même.
C'est vrai, ça. C'est un mensonge.
J'imagine que c'est vrai.
Ah bon ? J'aime bien.
Ah oui, génial.
Moi-même, j'ai fait de l'humanitaire avec des copains quand j'avais 18 ans. Donc je sais de quoi je parle. C'était dans une école, mais en Inde. Au bout d'une semaine, on avait tous la tourista. Donc en plus, il n'y avait pas de papier. Donc bon, ça fait des anecdotes de voyage à raconter, mais question utilité, on a fait mieux, quoi. Bon, on avait quand même fait un peu de peinture dans les salles de classe, et puis on avait donné des...
C'est aucun rapport.
Ah non, il n'y a aucun rapport. Vous avez des idées mal placées.
Il y avait une liaison qui était
dégueulasse. Il n'y a pas de rapport, relis tes papiers avant de le faire.
On fait une pause plus longue entre les deux, quoi. Mais quelle horreur. Oh, je me sens sale, Nagui.
C'est la meilleure vanne et tu savais même pas que tu l'avais fait.
Mais ça m'arrive souvent.
Ah, mais t'es un génie. Hein.
C'est ça. Bon,
Peinture. Non, mais tu fais de la peinture, moi ça m'intéresse.
Oui.
On avait quand même
fait un peu de peinture dans les salles de classe et puis on avait donné des cours d'anglais aussi. Et tout ça gratuitement, hein, alors que les professeurs locaux, ils voulaient être payés. C'est triste à dire, mais ces gens n'ont pas de cœur, messieurs. Et puis on avait aussi joué avec les enfants. Là encore, gratuitement. Surtout avec les plus mignons et les plus propres, par contre. Et à la fin, on leur avait offert un carton rempli de médicaments et d'antibiotiques. À la base, c'est un carton qu'on avait emmené pour nous, au cas où on attrapait la lèpre. Mais finalement, non. Et il y avait même des seringues neuves, ça leur a fait vachement plaisir. Bon, allez, j'arrête là. Vous avez compris où je veux en venir. Le tourisme, c'est une chose. Et l'humanitaire, c'est comme la plomberie. C'est un métier, pas un loisir. Ça viendrait à l'idée de personne de partir en vacances au Cambodge pour déboucher des éviers. Hein? Après, rien n'empêche de s'intéresser aux problèmes d'éviers bouchés autour de soi. En France, il y a déjà tellement à faire. Merci beaucoup.
Merci, merci, merci.
Alexis, on se retrouve tous les dimanches au Point Virgule à 17h30, il faut aller le voir.
Merci. Et juste après, donc 20h au Palais des Glaces, Sophia Aram à nos amours du mardi au samedi, un spectacle jusqu'à fin mars, donc il faut quand même se dépêcher d'y aller. Mais c'est bon, il y a les vacances scolaires en plus, c'est parfait.
Oui, c'est bien.
Vous l'avez appelé à nos amours, avec d'ailleurs une comment dirais-je, un look très années 70. Ouais. Pourquoi ce choix esthétique et pourquoi ce titre à nos amours, référence à quoi?
Alors, pas au film, mais parce que je pense qu'on arrivera à s'aimer et on arrivera à parler d'amour de manière très apaisée quand on aura réglé tout ça.
Vous vouliez pas un titre Alors, ce qui est amusant, c'est que vous mettez...
C'est bien, optimiste.
À nos amours, au pluriel. Amour qui a la particularité d'être féminin, au pluriel. Ouais. Mais c'est la seule part féminine dans le titre.
Bah, oui, comme souvent. Mais non, j'avais envie de quelque chose de positif. Et pas forcément d'un jeu de mots, pas forcément... D'accord. Simplement un
cri du cœur.
Un truc joyeux.
Ouais,
un
ça truc joyeux. À nos amours, donc, ce truc joyeux, comme elle l'a dit, est au Palais des Glaces à
20h. C'est un truc joyeux, l'amour.
Allez-y, vous allez vous régaler. La musique, donc, il y en a dans le spectacle, puisqu'elle chante et elle danse.
J'adore. C'est
que vous bougez bien aussi.
Ouais. Hein. J'ai adoré cet œil qui frise en lisant.
Non, vous bougez.
Il a frisé.
Les deux.
Et puis ce filet de bave était jeune quand même.
Je te rappelle, Sophia, que tu es myope, donc tu ne peux rien voir.
C'est pour ça que je demande à mes camarades.
Vous occupez la salle, la scène est hyper large et vous occupez tout, quoi. Même avec les rideaux, vous avez des jeux à un moment donné, des jeux de lumière qui sont très bien faits, quoi.
Ouais, absolument bien. Remarqué. Voici la bande originale donc de Sophia Aram, ça commence en 73, année de sa naissance, mais qu'écoutait-elle à la maison ?
Viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour moi mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi, viens, viens.
Qu'évoque cette chanson pour vous ?
Bien. je connaissais pas les paroles quand j'étais petite, mais je me souviens qu'avec mes frangins, on disait toujours viens, viens, et ça se terminait par un truc super langoureux. Mais Marie Laforêt, j'adorais cette chanteuse. J'étais vraiment, j'aimais beaucoup. Je la trouvais belle, je la trouvais intense. Elle avait un truc très très fort.
Et rigolote aussi.
Et rigolote, je la connais peu.
On a évoqué votre enfance avec vos 6 frères et sœurs.
5
frères et sœurs. Vous avez vécu à Trappes.
Ouais.
Donc il y a aussi pas mal de personnalités qui viennent de Trappes, qui revendiquent Trappes.
C'est un nid à vedettes, Trappes.
Ouais. Ouais.
Ouais, Trappes, c'était une ville où on a fait plein de choses. Grâce à la municipalité communiste à l'époque, on faisait tous du théâtre, on faisait tous du sport. Le lycée nous emmenait en voyage partout. On faisait des stages plein air, des stages de ski. Non, c'était formidable. On a eu des enfances assez joyeuses, je crois.
Ouais, bien loin du cliché qu'on peut coller de rechef à la banlieue et au côté misérabiliste de l'environnement.
J'ai été très, très heureuse à Trappes.
Et puis vous avez surtout une grande sœur qui a été importante pour vous parce qu'elle vous a mené au cinéma, elle vous a un peu politisé quelque part.
C'était un dictateur, ma sœur. Elle voulait absolument, il fallait qu'on parle correctement, il fallait pas qu'on fasse de fautes, il fallait qu'on aille voir les grands films, il fallait qu'on aille voir. On avait des séances de ciné-club, on regardait les ciné-clubs à la maison et ça pouvait être vraiment super plombant. Le grand film scandinave sous-titré, nous quand on était gamins, c'était des scènes super gore, quoi.
Il fallait de la VO surtout.
Il fallait de la VO. Ouais. C'était dur à trouver à l'époque.
Et comment vous expliquez ça tout d'un coup que votre sœur voulait vous guider, vous emmener avec vous en fait, avec elle dans ce chemin-là?
Elle s'est sentie une responsabilité vis-à-vis de ses frères et sœurs.
Ah, donc elle le faisait pour toute la fratrie.
C'était pas que pour moi. Non, elle le faisait pour tous. C'était l'aînée.
La deuxième maman.
Ah oui, elle a pris en main l'éducation.
D'accord.
Et comme elle était à l'école, elle était brillante, c'était la première de la classe, elle a sauté des classes. C'était vraiment quelqu'un qui avait pris conscience que l'école était s'il fallait absolument qu'on réussisse à l'école et que la culture en faisait partie. Et donc le théâtre, elle nous a emmené, alors pareil, le théâtre c'était pas dans notre milieu, elle nous a emmené les concerts, la musique, tout ça, c'était vraiment elle. Ouais.
En 1991, justement, premier cours de théâtre, et là, vous écoutiez... That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. R.E.M. Losing My Religion. Très pop rock.
Ouais, mais j'avais déjà perdu ma religion depuis très 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 longtemps, moi.
Ça, c'est la vanne sur le titre.
Ouais, ouais. Mais j'aimais beaucoup, beaucoup R.E.M. Quand ils étaient avec les B-52s, ah, oui. Quand ils chantaient Love Shack, etc. Moi, j'aimais beaucoup.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'époque, vous n'étiez pas très, très bonne en sport.
C'est
et finalement,
grâce à ça.
Et finalement, voilà, comme quoi ça peut aider parce que votre prof de sport... vous recommande d'aller faire...
C'est pas vexant comme truc. Vous ouais. faites du sport, vous avez un prof de sport, il vous dit, tu veux pas plutôt venir à mes cours de théâtre? Et ben, je lui dis, oui,
ah, c'est
pas.
Le prof de sport
c'est le prof de
qui
sport donnait
des cours de théâtre,
Ouais. Et c'est lui qui m'a initié au match d'improvisation théâtrale, et qui est toujours un ami, d'ailleurs, Jean Jourdan, je le salue s'il écoute France Inter.
Et vous vous êtes retrouvés dans la même équipe que Jamel Debbouze pour le championnat de France d'impro en 91.
Junior, ouais, en ouais. junior, on jouait ensemble, et puis après on a intégré l'équipe senior ensemble, on a fait des voyages au Québec, on a joué en Belgique, c'était vraiment formidable.
Vachement bien.
Ouais. Et j'ai fait Avignon en 91, j'étais gamine. Et
toujours
fait...
en ligue d'impro en quoi
ouais, en ouais. match d'impro, oui.
Et vous nous avez raconté que vous avez fait beaucoup d'études. À quel moment vous êtes dit, il faut que je choisisse entre soit devenir comédienne, vraiment faire que du théâtre, ou quand même m'assurer un petit socle
bah, au cas où...
Ouais, c'est ça, passe ton bac d'abord.
J'étais
ouais.
un peu dans cette logique-là, ouais. c'est-à-dire que pour moi, il fallait des diplômes dans la vie. Mmh. Donc je suis allée à l'université, j'ai passé mon bac tout en faisant du théâtre à côté. Quand je suis allée à l'université, un peu moins. Et puis après, j'ai eu un enfant. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je me suis posé cette question, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller vers une carrière universitaire? Je pouvais faire de la recherche ou... est-ce que j'essaye quand même? Et je me souviens, alors ça c'est une anecdote que je ne vous ai pas racontée, Nagui, mais je me souviens que Jamel était venu me voir et il m'avait dit, Sophia, il n'y a quand même pas beaucoup de filles à la télé, tu devrais essayer. Et il m'emmène, on va sur le plateau de H, on va faire plein de choses ensemble. Et il me dit, mais vas-y, vas-y, vas-y. Je lui dis, oui, mais vas-y, t'es mignon, je fais quoi? Et là, il m'a donné votre numéro.
Mais vous m'avez jamais appelé.
0,
on avait travaillé ensemble.
Le problème, c'est que tu n'as jamais répondu.
Oui, on avait travaillé ensemble, et c'était suite à ça, en fait.
Ah, c'était suite à ça. Ah, mais je ne savais pas que c'était Jamel qui
avait... On avait travaillé ensemble sur un projet.
Exact.
Et c'était Jamel qui m'avait dit, il y a un mec que tu peux appeler qui est vraiment top, c'est Nagui. Et je me souviens, j'avais été très, très touchée parce que vous aviez répondu positivement, alors que je débarquais, personne ne me connaissait, j'étais juste une étudiante copine de Jamel. Vous auriez pu me dire, oui, oui, c'est ça. Mais en fait, non, on avait bossé ensemble.
Et je m'étais bien comporté.
Très très bien.
J'adore le mec. Hyper inquiet.
On dirait Guillaume a pris ses cuisses
sur son visage.
J'ai dit quoi?
La phrase du dossier. Oui, c'est ça. La phrase qu'on faisait, je vous l'ai jamais dit. Je vais nommer. Et la chute.
Elle a un moment de radio.
C'est lancé.
Vous n'avez pas reçu le courrier du tribunal.
J'ai gardé l'enfant. C'est ça. Ensuite, on est en 2007. Exactement. Soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. Yel Naïm, New Soul.
Et à cette époque-là, on vous retrouve sur scène, Sophia Aram, dans votre premier one-woman show, Du plomb dans la tête, qui prenait pour point de départ un événement dramatique.
Le suicide d'une maîtresse dans une école maternelle.
Ouais. ouais.
C'était une cellule de soutien psychologique dans une école maternelle au lendemain du suicide de la maîtresse des moyens. Et je jouais tous les parents d'élèves, les instits. Et
c'était quelques... très drôle.
Oui, c'est vrai, t'étais venue. Mais non, par rapport au spectacle, c'était parce que à l'époque, quand j'habitais à Trappes, il y avait à La Verrière, il y avait un centre MGEN qui était un centre dans lequel il y avait des enseignants en dépression. Et il y avait
MGEN,
beaucoup...
c'est quoi?
C'est une mutuelle.
C'est une mutuelle d'enseignants.
Éducation nationale.
D'accord.
Et c'était un centre dans lequel les profs en dépression, les enseignants en dépression allaient se faire soigner. Et je me souviens avoir entendu, quand j'étais pionne, un élève dire à une prof, toi je vais t'envoyer à Marcel Rivière, ça, c'était l'Institut Marcel Rivière. Je vais t'envoyer à Marcel Rivière.
Classe.
Et ça m'avait... Mais que les gamins aient intégré ouais. qu'on pouvait faire du mal à ce point aux enseignants et que les enseignants soient vulnérables au point d'être en dépression.
C'est fou.
Et il y avait des drames, effectivement, autour de centre. Et j'avais envie de partir d'un fait dramatique pour raconter des choses drôles.
Et leur rendre hommage aussi, d'une certaine façon.
Parce que j'ai aimé mes profs. Ouais. Moi, je les aime toujours et je leur dois vraiment beaucoup. Et c'était un hommage, oui.
Raphaël Rémy-Leleu nous a rejoint. Bonjour Raphaël.
Oh.
Soyez la bienvenue à ce micro. Vous êtes porte-parole de l'association Osez le féminisme, co-auteur avec Margot Collet de Beyoncé est-elle féministe? J'aime beaucoup la question. Aux éditions First, qui est sortie l'année dernière, à peine.
Oui, en septembre.
C'est ça. Pourquoi y a-t-il des femmes nues partout? C'était la question que vous posiez autour de Beyoncé.
Ouh, il y avait beaucoup de questions autour de Beyoncé. Plein de questions qu'on retrouve d'ailleurs dans le spectacle de Sophie Aram.
En tout cas, à partir des clips, à partir des modes de communication, pourquoi voit-on des femmes nues pour nous demander de manger des yaourts ou acheter une voiture?
On a notamment un titre de chapitre qui s'intitule « Pourquoi faut-il une femme nue pour vendre du yaourt ?» Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Pour vendre des montres, il faut mettre des femmes à poil. Pour vendre des yaourts, il faut mettre des femmes à poil. Pour vendre de la salade, limite, faut mettre des femmes à poil. Et donc, toute cette hypersexualisation et le fait que la femme, finalement, est toujours un objet, jamais un sujet. Elle est toujours centrale dans les histoires, mais jamais active. Pareil que dans les contes dits de fées. Oui. Donc, ça fait partie des questions qu'on pose beaucoup, qui nous sont beaucoup posées et
mais
auxquelles on a envie de répondre.
Ça, c'est depuis que l'humanité existe, les statues, les déesses, il y a toujours sur les peintures, les toiles. La femme nue est très présente.
Oui, si on en arrive à l'Antiquité, oui, mais il y a beaucoup de retournements dans l'histoire où il y a, par conservatisme, le corps des femmes qui est caché. Et d'ailleurs, on en parle aussi, c'est assez bizarre cette expression, le corps des femmes. Comme si il y avait les femmes qui pouvaient se balader d'un côté et leur corps de l'autre. Et je pense notamment, ne serait-ce qu'aux fémènes, qui sont encore en procès et qui sont encore condamnées cette semaine pour exhibitionnisme. Alors qu'un supporter de foot qui se met torse poil au milieu de l'Arc de Triomphe, personne ne va lui intenter un procès pour exhibitionnisme.
Torse nu, un homme ne peut pas le faire parce que c'est pas considéré comme son torse n'est pas considéré comme comment on appelle ça.
Mais ça pose la question
un objet sexuel.
Ça pose la question des seins. Il a des seins. C'est le double standard. C'est quelque chose qui est à la fois de l'ordre, parfois de l'hypersexualisation, parfois de l'hyperconservatisme.
Mais ce qui rend,
et on essaye de naviguer entre les deux.
Ce qui rend les seins objets d'attirance ou de fantasme ou de délire, c'est le fait que ce soit quotidiennement caché par les femmes sur la plage
les hommes aussi, dans la ville.
Hommes ont pas un haut de maillot
sauf
sur la plage.
Ville,
ça dépend, je t'emmènerai sur des plages, Nagui.
Ouais, sauf que dans la vie du quotidien, les hommes cachent leur torse aussi.
Ça, c'est parce qu'il fait froid.
Non, mais pardon, je veux dire, on va pas demander à toutes les femmes de revenir. D'ailleurs, elles sont plus du tout seins nus sur les plages. C'est fini, la mode des seins nus pour beaucoup de raisons médicales, d'ailleurs, et de protection.
Moi, je ne demande à aucune femme. Hein, c'est...
Non, mais pour comprendre le raisonnement, vous dites d'un côté, il faut arrêter de montrer des femmes nues pour faire de la publicité, et de l'autre, il faut accepter qu'on puisse voir des femmes nues dans des manifestations et pas les arrêter pour exhibitionnisme.
Mais c'est toute la question de la volonté de montrer son corps, finalement. Ouais. C'est que chaque femme soit libre de se gérer elle-même et pas uniquement son corps. Et ce qu'on montre surtout via ce raisonnement, c'est ce double standard, cette volonté de toujours contrôler le corps des femmes. Il y a une expression qu'on utilise régulièrement, c'est le corps des femmes, c'est le premier champ de bataille du patriarcat. Ça se voit sur la question des seins, ça se voit sur l'IVG, ça se voit sur la mini-jupe, ça se voit sur le voile. Enfin, vraiment, c'est en permanence l'objet qui revient et traité comme un objet politique, alors qu'on pourrait aussi être des sujets politiques et d'abord écouter ce qu'on a à raconter.
D'ailleurs, à ces sujets, généralement, on ne pose pas la question aux femmes en personne. On laisse des gens disserter sur le sujet sans les femmes.
Ou alors on fait venir Eugénie Bastier.
Ça, c'est encore un problème.
ne croyez pas que je sois contre tout ce que vous disiez. On ne peut pas vraiment mettre le voile et la mini-jupe dans la même phrase et les comparer.
Ah, je n'ai pas comparé.
Elles
je dis
pas
que
le
dans
même
la
poids et la même signification.
Non, je ne compare pas ni le voile et la mini jupe. Je dis que dans les grands débats qui sont créés autour des droits des femmes, plus souvent on va parler de ce qui est relatif au corps des femmes que ce qu'on a envie de dire, que les droits qu'on a envie de gagner, et c'est assez pénible à la longue.
Le point de départ du spectacle de Sophie Aram au Palais des Glaces et à Nous Amours, je redonne le titre, est l'affaire Weinstein. Est-ce qu'elle a été utile à quelque chose, à part à la créativité de Sophia? Est-ce que ça a ouvert des débats et ça a apporté quelque chose?
C'est déjà important, la créativité de Sophia. Non, j'en profite pour dire merci parce que ça fait du bien aussi d'avoir de la création féministe, de la culture féministe. Et c'est une très bonne réponse à tous ceux qui pleurent en disant que les féministes n'ont pas d'humour.
Ça, c'est fait.
Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, sur l'affaire Weinstein, bien sûr, ça a été utile. Ne serait-ce que pour toutes les victimes, ne serait-ce que pour toutes les femmes qui ont pu, grâce à ce moment médiatique, à ce moment politique, prendre la parole, mais surtout être écoutées. Et ensuite, malheureusement, en France,
et ailleurs, il n'y a pas toujours eu une réaction à la hauteur, que ça soit la tribune sur le droit d'importuner, que ça soit finalement le niveau de tolérance sociale qu'on a toujours vis-à-vis des violences sexuelles contre les femmes, mais aussi contre les enfants. On a encore énormément de boulot à faire.
Et qui passe d'ailleurs par le silence des victimes, que ce soit les enfants qui n'osent pas parler en se disant « c'est un adulte qui a porté la main sur moi, donc il a forcément raison, il est le symbole de l'autorité, c'est lui qui me dit ce que je dois faire à l'école, ce que je dois faire à la maison, donc
oui, c'est
pas mal. Je ne dis rien, voilà. » Et comme malheureusement beaucoup de femmes ont presque un sentiment, pardon d'employer ce terme, mais de culpabilité, ou n'osent pas dire qu'elles ont été agressées, tripotées, ou pire évidemment. Violée en allant témoigner dans les commissariats, mais j'ai l'impression que l'accueil maintenant se fait, d'après ce qu'on a pu entendre, et que l'écoute en tout cas se fait plus facilement. Ce sont des femmes qui accueillent, ce sont des femmes policières qui accueillent des femmes qui ont été agressées, et on ne demande pas de répéter 25 fois les témoignages, on ne prend qu'une fois.
Alors aujourd'hui, dans chaque commissariat, dans chaque gendarmerie, il y est censé y avoir une personne, le plus généralement une femme, particulièrement formée, dédiée à l'accueil des victimes. Bon, le problème, c'est qu'une personne, ça fait peu, d'autant plus que la personne a le droit de partir en congé et d'avoir ses récup. Et ce qui est quand même encore aujourd'hui extraordinaire, c'est que ça ne fait pas partie du corpus de base, de dire on va écouter la parole d'une victime correctement. Personne n'a eu de formation particulière pour dire « je vais croire la personne qui vient dire qu'elle a été victime d'un braquage à main armée. Je vais croire la personne qui a été victime d'un cambriolage. » Par contre, une femme victime de violences sexistes et sexuelles, on va toujours remettre en cause. Et vous employez le terme de culpabilité, il est ultra important. En effet, ce silence des victimes, il faut le dire, il faut le combattre, et puis surtout, il faut l'expliquer. Le silence des victimes, c'est avant tout la stratégie des agresseurs qui construisent ce silence, qui inversent la culpabilité et qui mettent la honte sur les victimes. C'est ce que vous avez pu dire plus tôt dans l'émission, c'est extraordinaire qu'en 2019, on dise encore à des femmes, fais attention à comment tu es habillée quand tu sors le soir.
Et je me permettais de dire, c'est un problème d'éducation. Est-ce que je me trompe ou pas ?
J'aurais tendance à croire que tout est un problème d'éducation.
Ouais.
C'est vrai qu'il y a cette... C'est vrai qu'on est éduqué de toute manière dans une société qui est encore un patriarcat et qu'on a plein de relais dans notre éducation.
Non mais on est même éduqué par nos mamans aussi dans cette réflexion-là.
Par nos papas et nos mamans elles-mêmes ont été éduquées dans certains schémas. C'est la difficulté.
Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle génération là qui, justement, après tous ces outings, tous ces débats, ces tribunes, ces spectacles, ces prises de parole, ces chansons aussi, parce qu'il y a des artistes qui en font des musiques et des titres. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que vous avez un sentiment auprès de la jeunesse que les choses changent?
Je vais me demander s'il y a des féministes qui mettent leurs ovaires sur la table pour porter haut le clito.
Non, pas leurs ovaires, parce que c'est dégueulasse, mais leurs couilles.
Oui, mais on n'en a pas, justement, donc on se réapproprie aussi.
Je blaguais, j'ai essayé une blague.
Non, mais...
Vous savez qu'elle marche.
Oui, ça change. Ce qu'on a vu, c'est notamment, il y a de plus en plus de personnes qui se disent féministes, notamment chez les 16-25 ans, et ça, c'est quand même un signe d'une évolution très positive. À Oser le féminisme, c'est comme ça qu'on a choisi le nom de l'association aussi, c'était pour dire qu'il faut se réapproprier ce mot, il faut se réapproprier ce combat et dire que le mythe dans lequel on a essayé de nous enfermer dans les années 80-90 comme quoi l'égalité était acquise, bah pas du tout, on est toujours payé 25% de moins quand on est une femme dans le monde du travail. Ouais. Et donc voilà, ça fait 10 ans, nous on va bientôt fêter nos 10 ans qu'on essaye de porter ces combats-là avec pédagogie, avec humour, dans tous les domaines, qu'on parle des comptes, qu'on parle des inégalités salariales ou même de sujets beaucoup plus graves comme les viols. Et on voit en effet que l'éducation passe à travers tous ces sujets et pas souvent de la manière la plus bienveillante et la plus progressiste.
Juste pour une toute petite anecdote, j'ai enregistré la semaine dernière on était plusieurs à enregistrer des messages pour la Fondation des Femmes pour protéger les femmes victimes d'agressions et d'abus, et dans toutes les personnalités qui sont venues participer, il n'y avait pas beaucoup de garçons. C'est encore dommage. On était peu nombreux, je trouve, comme mecs.
Si vous voulez, j'ai un coupon d'adhésion dans mon sac à main.
Je suis déjà chez la Fondation des Femmes. Vous acceptez ceux qui sont des autres?
Mais oui, avec grand plaisir. Non, c'est vrai qu'il y a encore peu d'hommes, y compris parce que...
Non, je veux dire, il faut dire que les hommes peuvent être féministes, quoi.
Tout à fait.
Oui, parce que souvent, la réponse que font les hommes, c'est de dire, moi, je peux pas être féministe parce que je suis un homme. Et là, je me dis, bon, alors, on va s'asseoir 5 secondes, on va réexpliquer le concept, et puis tu vas sortir. Et en fait, tu l'es, foncièrement, tu l'es, parce que dans tes agissements, tu l'es.
Et alors, il y en a qui sont tellement féministes qui se disent, je peux pas être féministe parce que finalement, je vois pas toutes les agressions que ressentent les femmes. Mais du coup, je peux être un allié, je peux être pro-féministe, tout ça. Enfin, nous, typiquement, on est une association mixte. On a besoin aussi d'avoir des hommes qui s'engagent, qui comprennent les problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui arrêtent eux-mêmes d'être des problèmes parfois. Mais ensuite, c'est important de pas...
On peut vous joindre comment d'ailleurs? Vous contactez comment?
Alors www.osezlefeminisme.fr tout simplement, Twitter, Instagram, Facebook.
Très bien.
Rejoignez-nous.
On n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais là aussi, c'est pas simple sur les réseaux sociaux, le féminisme. Il y a encore énormément de travail.
Ah, mais être une femme au quotidien, ça n'est pas simple, malheureusement.
Eh ben, courage. Et on est féministe, en tout cas.
Ça va le devenir, allez.
Tanguy Pastureau, bonjour. Tanguy.
Bonjour, Nagui.
Vous allez nous parler de Christian Estrosi.
Oui, il est beau, il sent bon le sable chaud, ou plutôt les galets brûlants qui rentrent dans les fesses, puisque c'est le maire de Nice. Et il s'ennuie comme un rat mort dans sa ville de seigneur. Du coup, pour s'occuper, il lance la reconnaissance faciale par caméra. Même si votre mère vous reconnaît pas parce que le docteur a raté votre botox, le système, si. C'est infaillible.
C'est la bande originale, merci. Vous nous rejoignez avec Leïla Kadobou-David.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Albert Algou.
Bonjour.
Frédéric Sibnis.
Bonjour
Tanguy Bassureau. Alexis Rossignol.
Le peintre.
Et notre invité Sophia Ram.
Bonjour.
Avec ce seul en scène comme vous le faites depuis le début, écrit avec votre compagnon Benoît, qui s'appelle À nos amours, c'est au Palais des Glaces à 20h où elle se donne en spectacle, mais dans tous les sens du terme. Non, mais c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure Alexis Le Rossignol, la mise en scène aussi est importante. S'approprier l'espace, s'amuser à danser, à mimer des scènes, à jouer avec les jeux de lumière, à chanter.
Incarner des personnages.
C'est un spectacle, oui, c'est ça.
J'ai énormément de plaisir, je prends énormément de plaisir sur scène, je m'éclate. Le public est top, les gens chantent avec moi, les gens...
La Tata, comme personnage, il y a...
Toujours Tata Fatiha, elle est dans tous mes spectacles, Tata Fatiha.
Elle existe ?
Non. Non, en fait,
c'est un mélange.
Ouais. C'est un peu une synthèse. C'était ma grand-mère était quelqu'un d'extrêmement grossier. Elle disait beaucoup de gros mots et elle parlait pas très très bien français, mais elle avait bien appris les gros mots. Et par exemple, moi, elle me babysitait de temps en temps et quand elle me gardait, elle faisait des doigts et moi j'ai essayé de faire des doigts. Je devais avoir 2-3 ans hein, et j'ai me trompé de doigts. Je faisais toujours avec l'index et alors du coup, elle me mettait des allumettes entre mes
pour
doigts
vous, pour vous apprendre,
pour m'apprendre à bien utiliser le majeur. Ouais. Et donc j'ai utilisé un peu ce personnage de ma grand-mère pour en faire un peu quelqu'un d'autre.
Qui d'autre? Martine,
ma prof à l'EHESS. Mmh. Pareil, c'est une synthèse, j'ai pas connu de Martine, mais j'avais des profs à l'EHESS qui étaient des féministes old school, assez rentre-dedans, qui arrivaient avec leurs gros sabots et leurs pantalons à velours côtelé.
Oui, c'est ça. On l'imagine, on la voit très bien.
L'enseignante qui essaye de faire comprendre que nique ta mère, c'est un préjudice quand même assez énorme pour.
Elle est très pédagogue, c'est-à-dire qu'elle rentre dans l'explication de texte de ce qu'est cette injonction faite à son camarade.
À copuler avec sa propre mère.
C'est tellement drôle, ça c'est tellement drôle. Y compris de dire aussi, quand il y a des insultes homophobes, d'expliquer lequel des deux dans un couple est.
Ouais, parce que ça, c'est dans l'inconscient collectif. Hein, ouais, c'est vraiment. Un truc, alors en plus, moi j'ai lu récemment que PD, c'est l'insulte la plus utilisée dans les cours de récré. C'est la plus répandue. Et aujourd'hui, traiter quelqu'un de PD, c'est vraiment horrible, quoi. C'est devenu un truc
banal.
Et pareil, le enculé, on se rend pas compte que c'est homophobe. Mais ça l'est, profondément. Enfin non, c'est pas le mot que je voulais utiliser. Non, c'est... Oh mince.
C'est le spectacle qui continue.
Non, je voulais pas dire ça.
Eh oui, mais c'est fait. C'est drôle, c'est intelligent. On vous encourage à aller l'applaudir au Palais des Glaces à 20h. Sophia Aram, voici Tanguy Pastureau. Tanguy, la reconnaissance faciale... Voilà, arrive en France.
Oui, il était temps parce qu'on est à la bourre par rapport aux Chinois. Mais notre Xi Jinping à nous s'est sorti les doigts. Il s'agit de Christian Estrosi, alias Petit Dragon faisant son jogging en legging qui lui moule les fesses. Estrosi, c'est le maire de Nice, un solide gaillard de 63 piges qui, grâce à un physique de mannequin slip, n'en fait que 62. Et il a la patate, le bougre. Moi, j'ai 45 piges, je suis claqué. Rien que de lire votre emploi du temps, Nagui, j'ai envie de mourir. Lui, il y a un an, a eu un bébé. Ces trucs longs et suintants qu'on sort du ventre du parent. parent 2, tandis que le parent 1 s'évanouit comme un con alors qu'il était censé faire le Facebook Live pour les proches. Alors Estrosi fait partie des Républicains, mais H24 critique Wauquiez. Il a la vie d'une punaise des bois dans la poutre de la chaumière finistérienne de Nolwenn Leroy. Bref, c'est un homme libre, beau, bien dans son corps. On a envie de faire un BEP massage juste pour le détendre du dos. S'il disparaît des médias, le combat contre le réchauffement sera gagné et Greta Thunberg, la fillette sud-ouest qui fait la grève de l'école pour le climat, pourra retourner en 6e C, cette branleuse. Le seul problème d'Estrosi, c'est qu'il est à Nice et que c'est pas la ville la plus fun du monde. À moins d'avoir plein d'argent, auquel cas on descend au Negresco et on achète un petit roumain au feu rouge pour qu'il retire un à un tous les galets de la plage afin de s'allonger sur du sable. Estrosi, donc, s'ennuie. C'est pourquoi il a décidé de tester à Nice la reconnaissance faciale. C'est comme sur YouPorn, mais avec des caméras à la place des pénis. Alors, le test s'est fait mardi et mercredi durant le carnaval de Nice, ce moment où les gens dansent en se lançant des serpentins. C'est une sorte de biopic de Patrick Sébastien. Et ils ont installé partout des caméras intelligentes. Il y a la caméra de votre papy, totalement conne, hein, qui filme les gosses de la famille en train de se vautrer en balançoire, et celles d'Estrosi qui sont intelligentes. Je pense qu'avant, elles ont servi à filmer des scènes sur les films de Wim Wenders. Quand on leur a dit « Vous allez faire les captations de la tournée Star 80 », certaines se sont autodétruites. 1000 volontaires ont accepté d'être reconnus dans la foule. C'est-à-dire qu'ils ont été fichés dans le système, et la caméra, les voyant, se dit « Purée, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Jean-Luc, là, derrière le char Brigitte Macron. On le reconnaît pas trop parce qu'il a dû boire et qu'il bave, mais je pense que c'est lui. » Il y a donc 1000 Niçois que la mairie peut suivre à la trace. Une vie atroce pour les mecs devant les écrans parce qu'ils se retrouvent juste à mater des gens qui achètent des pains à la boulangerie. A priori, si on fait partie des 1000 volontaires, c'est pas pour se faire péter devant H&M avec une ceinture explosive, qui à Nice sont des ceintures Gucci, hein, en criant dehors les gueux. D'autant que les caméras bossent toutes seules, puisqu'elles sont sophistiquées. Il a pas fait les seules sur ses discounts, cri-cri. Par exemple, elles prennent en compte le vieillissement d'un individu. Vous mettez dans l'ordi une photo d'Alain Delon jeune. Alain Delon, en 2019, déboule à Nice. Même les traits tirés après une nuit agitée passée à rêver de lui-même en se réveillant tous les quarts d'heure à cause du désir, le système le reconnaît. C'est infaillible. Et si au carnaval, vous portez un masque de Mickey, la caméra vous remet et Estrosi vous ramène dans sa Renault Talisman jusqu'à Disneyland.
Alors concrètement, à quoi va servir cette reconnaissance faciale ?
Eh bien, à reconnaître des individus dangereux. Si on réalise que Maître Gims est en ville, il est possible de le neutraliser avant qu'il fasse un concert. En juillet, la reconnaissance faciale a déjà été mise en œuvre à l'aéroport de Nice. Du coup, Caris reçoit un SMS qui l'avertit si Booba est au duty free et il peut se cacher derrière les M&M's. Et depuis janvier, le lycée niçois Les Eucalyptus, hein, le seul lycée à porter le nom d'un EHPAD, a installé des portiques visuels qui analyse les visages des élèves. Bon, là, le truc est paumé. Entre le sébum et les cheveux gras qui renvoient toute la lumière vers la caméra et l'aveugle, et le fait que certains passent de 160 boutons à 2 s'ils sont allés voir le dermato, personne n'est reconnaissable. Alors le but, d'après la région PACA, lutter contre l'usurpation d'identité. Je vois pas le principe. Moi, si j'usurpe l'identité de quelqu'un, je prendrais pas celle d'un lycéen boutonneux pour me retaper tous les cours. Je prendrais la vôtre, Nagui, afin de présenter Taratata et enfin rencontrer les Kravitz. Hein, pas pour sa musique, je m'en fous, c'est du sous Led Zepp si Robert Plant avait mangé Prince. Non, pour lui demander si sa crème de jour, la marque de sa crème de jour, parce qu'il ne vieillit pas, hein, comme Alain Juppé, c'est qui vrai. Avait déjà 70 ans à 25 ans. Mais avec plus de groove que Juppé, hein, ce qui n'est pas compliqué, puisqu'une enclume a plus de groove que Juppé. Alors, ce qui est formidable avec la reconnaissance faciale, c'est qu'Estrosi, qui pour l'instant n'est qu'un aimable modèle pour soupule des catalogues d'Axon, va devenir un super héros. La seule différence avec Batman, c'est qu'on va pas le voir en combi de latex puisqu'il refuse d'inviter les gens à ses soirées. Il aura une oreillette, un petit micro et dans la rue, quand une personne viendra vers lui, il dira à un employé de mairie René, je suis perdu, comment s'appelle cette poufias? Je répète, c'est qui cette radasse? L'autre la filmera, le système affichera Madame Sanchez, 52 ans, aime plus belle la vie et le cuir, n'a jamais adhéré au PS parce qu'elle est de Nice. Et Estrosi pourra lui dire Madame Sanchez, je vous demande pas si ça va, je sais, la dernière fois qu'on vous a vu chez le médecin, c'était le 16 octobre à 9h58. Par contre, votre fils est arrivé en retard au bahut ce matin. Il faudrait voir s'il n'a pas de lien avec Daesh. Estrosi, ça va être le premier homme à super pouvoir du monde. Ainsi, jamais la CNIL, le truc informatique et liberté tout vieux, tout nul, valide son entrée dans l'univers Marvel. Estrosi, c'est Spider-Man en plus souple.
Merci, Tony Bachereau. La bande originale, Nagui,
sur France Inter.
Et Tanguy, ce sera le 27 avril à Mézières-les-Metz.
C'est noté, 27 avril, tu as dit.
Oui.
Jusqu'à fin mars, au Palais des Glaces, à 20h, Sophia Ram avec À nos amours dans ce spectacle. Et on l'a déjà vu dans quelques teasers ou des émissions que vous avez faites aussi. Il y a ce sketch qui est beaucoup repris sur les règles, qui font énormément parler, à partir du spectacle, qui font pas parler dans la vie. On n'en parle pas des règles. Et même dans les pubs, d'ailleurs, pour les serviettes hygiéniques ou pour les tampons, c'est évoqué.
Le sang
est bleu, ou violet.
Ça, mais... ça s'ouvre en corolle. Ouais. Moi, toujours. J'adore le truc qui s'ouvre en corolle. Quoi.
Ouais. Moi, j'avais un cousin qui croyait que ça servait à ça. Qui croyait que les tampons, c'était juste pour mettre dans des verres et que ça s'ouvrait. Comme ça, il se demandait pourquoi on achetait ça. Mais...
Ouais.
C'est... Alors, ça vient de quoi? C'est parce que c'est une question d'hygiène, une question de pudeur, une question d'éducation. C'est ancestral.
Mon sentiment, c'est que c'est religieux. Ouais. L'impureté des femmes, elle a été vendue dès le départ. C'est-à-dire que dire d'une femme que quand qu'elle a ses règles, elle est impure, c'est une façon de nous discréditer tout de suite. Et donc, on nous parle souvent de pudeur. Mais je fais pas beaucoup la distinction entre la pudeur et la honte. Parce que mon sentiment à moi, c'est qu'on nous a appris à en avoir honte dès le début.
Mm-hmm. Toute religion confondue, c'est ce que vous
dites. Toute religion confondue, même si dans le Nouveau Testament, c'est pas dit textuellement, mais dans l'Ancien, oui.
Oui, mais l'ancien, ça ressemble à la Torah aussi, puisque...
Oui, c'est le même bouquin.
Voilà, c'est le même bouquin.
On
cite Pline l'Ancien. Oui, c'est la première encyclopédie d'histoire naturelle dans laquelle on explique que le sang des femmes pourrit les fruits.
Plus rien ne pousse.
Voilà, plus
c'est
rien
une parallèle avec le Vésuve, parce que c'est lui qui a décrit l'éruption du Vésuve. Il est connu pour ça.
Exactement.
En fait, l'ancien. Donc les règles et l'éruption volcanique, c'est la même. Quoi.
Et on a découvert, en lisant Ceci est mon sang, qui était un livre aussi sur les règles, qui était très 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 intéressant justement sur l'histoire du rapport qu'on a aux règles. Il y a des chercheuses qui ont fait ce travail-là. Mais qui n'est pas complètement vulgarisé. Et pour revenir à l'éducation...
Aucune religion ne rattrape l'autre ?
Non.
Aucune.
Non, dans la religion juive, ça va très loin. C'est-à-dire qu'il y a un bain de purification après les règles, avant que la femme puisse redevenir fréquentable, touchable...
Et partager
et
le lit.
Elle ne peut pas partager le lit,
c'est ça qui est fou.
Alexis Rossignol a raison.
Oui, ça fait tourner la mayonnaise.
L'histoire de la mayonnaise.
Ça me rend dingue.
Idée
c'est
reçue.
Ouais. C'est toutes ces croyances.
C'est peut-être comme ton cactus, en fait, Sophia.
C'est ça, il y a des gens qui y croient, et quand on y croit, ça marche.
Mais je pense qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui y croient.
Il ne faut pas rentrer dans la cuisine quand on a
l'histoire de la mayonnaise.
Ouais. Oui, bien sûr.
Mais est-ce qu'il faudrait d'ailleurs, là aussi, libérer la parole, dire aux agences publicitaires, arrêter de communiquer autour des tampons et des serviettes hygiéniques comme vous le faites?
Déjà, prononcer le mot, dire règle, c'est-à-dire qu'il y a des pubs pour les serviettes, pour les...
Ils disent jamais le mot règle.
Bah, ouais, j'entends pas.
D'accord.
J'entends pas règle.
Règles, c'est un liquide bleu.
Oui, c'est ça, ou violet, et voilà. Et pour moi, je trouve que pour les petites filles, il y a quelque chose d'assez. Enfin, d'ailleurs, dans les études, on découvre que la perte de confiance en soi chez les petites filles, elle arrive à ce moment-là, parce que c'est quelque chose d'assez traumatisant en réalité. On saigne, hein. C'est pas quelque chose d'anodin dans le corps.
Mais ça vient encore, pardon, de ce que la maman explique.
Le papa, la petite fille.
Il y a des
hommes qui élèvent leurs filles et ils devraient pouvoir en parler librement, mais c'est pas simple. Alors, ok, je suis d'accord, je suis à 100% d'accord, il faut éduquer les enfants, mais qu'est-ce qu'on fait de cette génération qui est là? Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils arrêtent d'être antisémites, pour qu'ils arrêtent d'être sexistes, pour qu'ils arrêtent d'être homophobes? Parce qu'il n'y a pas une génération qu'on va sacrifier pour s'occuper que des enfants. Il faut qu'on s'occupe de nous tous. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est là, on est responsables. On ne va pas se décharger nos responsabilités pour dire occupons-nous de nos enfants d'abord.
Alors, écoutez, ce qui est dit par les uns et les autres, c'est la répression, la condamnation,
et ne jamais rien laisser passer dans tout ce qui est dit tous les jours, c'est-à-dire que les sous-entendus, les tu sais, ces gens-là. Enfin, voilà, ça, faut pas laisser passer. On l'entend. Aujourd'hui, on a été très, très, très complaisant avec des tas de propos, des tas de sous-entendus. Mais quels qu'ils soient, hein, je parle de l'antisémitisme parce que c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui. Je parle de l'homophobie, je parle du racisme, je parle du sexisme aussi. Il ne faut rien laisser passer et arrêter de faire juste un petit revers de main en disant, ouais, bon, ça va, c'est pas non plus si grave que ça. C'est grave. c'est grave parce que poussé à l'extrême, ça tue.
L'actualité, vous la traitez avec humour tous les lundis matin sur Inter. Ça vous manque de ne pas pouvoir la traiter comme faisait peut-être Guy Bedos avec une espèce de revue de presse dans votre spectacle ?
Non, je l'ai fait dans mon précédent spectacle et en réalité, l'actualité que je traitais, c'était l'actualité de la montée de l'extrême droite, la montée de l'islamisme radical et c'était pesant. C'était très 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 pesant de le faire au quotidien et de devoir réécrire au quotidien. J'ai réussi, j'ai éprouvé du plaisir à le faire. Aujourd'hui, j'avais envie de quelque chose de plus posé où il y a ce travail aussi de prise de hauteur par rapport à ce sujet-là où on a pris le temps d'étudier parce que l'actu à chaud, c'est un autre exercice et c'est un peu fatigant.
Mais c'est ce que vous faites quand même.
Le lundi, c'est hebdomadaire.
Voilà. Le seul jour off, ça au théâtre, c'est vous ça. Le faites le matin. Ouais, elle veut pas se reposer. Ouais. Entre... Sophia Ram, à nos amours, c'est au Palais des Glaces à 20h. C'est drôle, c'est intelligent.
Ouais, bah ouais, je sais bien, t'es embêté.
Vas-y,
je
sais. Vas-y, fais la...
C'est dommage que ça soit pas le tour de Daniel Morin. Non, voici le dépôt de bilan de Forex.
Ah, c'est bon.
Bon.
Ça te plaît, ça.
Ah oui.
On va pas se mentir, Nagui. En termes de civilisation, en termes de civilisation, on est arrivé au bout de quelque chose. Je veux dire, quand je vois que la chatte de Karl Lagerfeld est plus riche que la plupart d'entre nous autour de cette table, sauf vous, Nagui.
Non, hein.
D'ailleurs, elles vont être drôles, vos prochaines vacances, avec autour de la piscine, vous en slip de bain assorti à vos baskets et choupette le chat. Hein. Non, franchement, moi, je me dis, on est en bout de course. Il y a un iceberg de la taille de la Floride qui est en train de fondre. Il n'y a que Depardieu qui peut boire un pastis avec un glaçon de cette taille. Et nous, est-ce qu'on réagit? On est là, oh, non, ça va. Si dans le futur, t'as des extraterrestres qui décident d'écrire le livre d'histoire de l'humanité et qui se demandent comment on a réagi alors qu'on faisait face à notre extinction, ils vont vraiment avoir du mal à croire que ce qui nous occupait à ce moment-là, c'était de savoir si parent 2, c'était pas discriminant par rapport à parent 1. Alors moi, personnellement, cette histoire de parent 1, parent 2, ça me passe au-dessus, parce que ça fait des années que dans les formulaires, à la case profession du père, je mets autre. Hein. Donc on pourrait mettre parent par intermittence. Moi, j'ai pas d'orgueil administratif, hein, ça sera encore assez vrai. Pour l'éducation, c'est pareil. La bonne idée qu'on a eue pour lutter contre l'antisémitisme, la violence à l'école, contre l'illettrisme, eh bien, c'est de mettre des drapeaux et de chanter la Marseillaise. Parce que quand tu chantes la Marseillaise, t'es apaisé. C'est vecteur de vivre ensemble. Et ça, les hooligans nous le prouvent à chaque match. Mais heureusement, il y a quand même des gens concernés par la fin des temps. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans une problématique de fin de mois, de gilets jaunes, tout ça. Non, eux, ils sont à très long terme. Et c'est en train de devenir un phénomène de société. Figurez-vous qu'il y a des gens tellement convaincus que l'humanité, c'est fini. Mais fini. Quoi. Genre, la carrière de Jean Roucas finie. Hein, qu'ils optent désormais pour la vasectomie. Oh. Plus d'enfants, ils se stérilisent. C'est même pas qu'ils en veulent pas, c'est qu'ils vont jusqu'à sauter la possibilité d'en vouloir. Alors, il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a ceux qui pensent que l'humanité est le cancer de la planète, donc un enfant, ça pollue. Et moi, ça me pose question, parce que vous savez que l'écologie, ça me tient à cœur. Quand j'ai vu les ravages de l'huile de palme, j'ai arrêté le Nutella. Quand j'ai vu le taux de glyphosate dans les aliments transformés, j'ai arrêté aussi. Là, si on me dit que les enfants, ça pollue...
Non, Fred,
c'est compliqué d'arrêter, non. D'autant que j'en ai deux. Alors, j'ai bien un jardin et un composteur.
Mais ça va être
tendu de jouer la carte de la map et des toilettes sèches quand les flics vont débarquer. Donc, de ce point de vue, pour éviter des désagréments de ce genre, je les comprends, vaut mieux anticiper et ne pas en faire. Le problème, c'est que si tu pars du principe qu'un enfant, ça pollue, est-ce que quand on va passer devant une maternité dans le futur, ça va nous faire le même effet que quand on voit un vacancier jeter une canette dans la forêt? On va voir une famille sortir avec le bébé comme ça. Oh, regarde-moi cette famille de porcs. Mais quelle bande de dégueulasses. Avec leurs poussettes, là. Vous êtes des monstres. Et puis vous êtes fiers. En plus, vous montrez les photos, mais vous me donnez envie de gerber. Hein. Ah, tiens, je vous crache dessus. Il va y avoir des pétitions. Pas de crèche à côté de chez moi. Je suis pour l'enfouissement des déchets. Enfin, ça va être un truc de fou. Et puis il y a la deuxième école. Ceux qui pensent que mettre un enfant au monde dans une époque telle que la nôtre, c'est les condamner aux pires souffrances. Alors eux, ils aiment tellement les enfants qu'ils n'ont pas encore, qu'ils ont décidé de ne pas les faire. Alors moi je comprends, pourquoi pas. Mais il y a peut-être quand même des paliers avant d'en arriver là. Des gradations dans la riposte. Parce que la stérilisation, c'est quand même un point de non-retour. Moi c'est ça qui me choque. C'est comme si tu voulais tellement pas conduire que tu décidais de t'amputer des bras. Sauf qu'on sait pas, un jour ils vont peut-être inventer une voiture qui roule à l'air. Et t'auras l'air con sans tes bras. Tu pourras même pas faire... Oh, même pas.
peut-être qu'avant très radiophonique.
On est filmé maintenant, on s'en fout. Peut-être qu'avant de contrôler les naissances, jouons sur d'autres variables d'ajustement, vu qu'on est trop nombreux. Je sais pas moi, arrêtons avec l'acharnement thérapeutique. Mais monsieur, mamie n'est pas malade. Elle peut l'être. Principe de précaution. Les limitations de vitesse, allez hop, 130 km/h sur les petites routes de campagne, c'est bien. Ceinture de sécurité déconseillée. Le taux d'alcool minimum autorisé, 5-6 grammes, à débattre. Pourquoi pas le meurtre? Je sais pas, je lance des idées. Hein. Une guerre sponsorisée par Greenpeace. Pour un arbre planté, un homme buté. Et sans vouloir être trop cru, pour être pragmatique, je préfère encore essayer, sincèrement, avant d'en arriver là, de me passer de mon portable, de Netflix, même de ma PS4, avant d'envisager de me couper les couilles. En plus, c'est hyper occidental comme vision, parce qu'il y a des pays où les enfants, ils touchent 2$ par jour. Niveau consommation, ils ont un bilan carbone impeccable. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens-là? Ah bah ok, vous pouvez continuer à faire des enfants, mais à condition qu'ils restent pauvres. Je veux dire, ça, c'est vrai. Les Chinois, avec leur politique de l'enfant unique, peut-être qu'ils avaient senti le coup venir et qu'ils ont pris le premier tour de garde. De 1979 à 2015, c'était à eux de contrôler les naissances. Alors, ils étaient dans un délire, pas trop de filles, gérer la parité, tout ça. Et maintenant, peut-être qu'ils nous le disent pas franco parce qu'ils sont polis. Mais peut-être qu'ils sont en train de nous faire comprendre que c'est à vous maintenant. Et finalement, la morale de cette histoire, c'est terrible pour le monde occidental, c'est pas de croissance, pas de naissance.
Merci, Brice.
La bande originale. Avec Nagui.
Sophia Ram est au Palais des Glaces jusqu'à la fin mars, du mardi au samedi à 20h. Elle est sur France Inter le lundi à 9h-5.
C'est ça.
Vous avez joué dans un film dans toute votre carrière. Je trouve ça peu pour quelqu'un qui voulait faire du théâtre, de la comédie et qui est comédienne justement, qui joue aussi.
Oui, enfin, ça s'est jamais présenté. Oui, j'ai joué dans Neuilly, sa mère. Et j'ai remplacé Rachida Brakni qui pouvait pas être libre pour le tournage, mais c'était un bonheur.
Et quand j'ai vu l'affiche du nouveau film d'Ahmed Hamidi qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien, je me suis dit Sophia Ram revient.
Mais carrément, et non, mais encore même pas. C'était un hommage.
C'est une phrase qui dit dans La haine.
Oui, si, mais c'est une expression.
Oui, oui, absolument.
C'est une expression. Et qui n'était pas forcément celle qu'on a vécue, mais en réalité, c'était une chouette expérience. Je ne reconstruis pas du tout. Jusqu'ici tout va bien, ça m'a fait beaucoup rire.
Absolument.
Mais oui, effectivement, quand j'ai vu le titre du film, ça m'a.
J'ai pensé à vous.
Ça m'a amusé.
On recevra la semaine prochaine, moi, Madame Hidi.
Très bien. Film avec Gilles Lelouch et Malik Bentala.
Marina Ouazzani, Malik Bentala.
Il me semble, voilà. Mais l'envie de jouer au théâtre dans une pièce, entre guillemets, écrite par quelqu'un d'autre que vous, ça pourrait se faire.
Ça pourrait se faire, tout à fait.
L'envie est là, et comme le cinéma aussi.
Et vous savez, j'ai une personnalité clivante. Et donc, on ne pense pas forcément à moi pour ces choses-là.
C'est vrai, vous pensez vraiment qu'il y a un délit de propos?
Non, je ne fais aucun procès d'intention à qui que ce soit. Je pense simplement qu'aujourd'hui, comme je dis des choses, que j'affirme, je porte des idées.
Des valeurs.
On a tendance à me considérer comme éditorialiste, journaliste, parce que je suis la fille chiante qui dit, quand elle se dit de gauche, quand elle a des combats de gauche, quand elle se dit féministe, ouais. Elle y va. Donc,
pas assez lisse.
C'est pas forcément quelque chose qui va fédérer. Alors que moi, je préfère laisser les gens se faire une opinion. C'est-à-dire que quand je parle, Eugénie Bastier, elle sait qui je suis.
Eh ben, changez rien, Sophia. C'est très bien comme ça.
C'est trop tard.
Palais des Glaces à partir de 20h et jusqu'au 30 mars. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Voilà, bien sûr. Ah oui, il est temps. Ah, et désolé déjà pour tous les établissements scolaires dont les profs d'art plastique déviants, après avoir écouté le pervers Alexis Le Rossignol, ont décidé de lancer un atelier cacamou sur mur blanc. En même temps, c'est pas ça, là. C'est de l'art, les amis. Il faut pas être dans le jugement. Alors, désolé pour tous les couples adultérins qui avaient prévu tranquillou d'aller voir Sophia Ram dans la salle noire. Sur les conseils de Nagui, Sophia va les faire filmer par le public. Vous êtes gaulés, les petits cochons.
Avec des caméras reconnaissance faciale de complètement.
Absolument. Et désolé pour les parents, les amis, la direction de France Télévisions qui ont découvert l'enfance cachée du grand espoir du journalisme du week-end à base de concours d'euros et de je m'enferme dans le frigo. Et voilà. Et encore, elle n'a pas parlé ni alcool ni poppers. Non, je ne donne pas son nom, et ce, par respect pour la famille Kadour Boudadi.
Ah,
et je le rappelle, je le dis à tous ceux qui nous ont rejoints à l'instant et qui n'ont pas entendu toute l'émission, ça a été dit il y a à peu près un quart d'heure, les règles font tourner la mayonnaise. Arrêtez de faire la mayonnaise quand vous avez vos règles, c'est scientifiquement prouvé et appuyé par le docteur Nagui.
Merci Sophia Ram.
Merci mille fois.
La semaine prochaine, lundi, Leïla et Daniel recevront avec toute la bande autour de cette table Audrey Lamy, Simon Abkarian. Le programme, d'ailleurs, je vais vous le donner. Mardi, ça sera Sabrina Ouazzani et en effet Mohamed Hamidi pour Jusqu'ici tout va bien. Mercredi Lambert Wilson, jeudi Renaud Capuçon, vendredi Swan
Arlo.
Donc bonne semaine Leïla, bonne semaine
beaucoup.
Daniel.
Et dimanche nous retrouverons Isabelle Carré et Catherine Sellac.
Chic. Et tout de suite sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Merci Sophia Rame.
Merci, bravo.